Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
À quelques jours d'un débat sur l'Ukraine au Parlement, des chefs de partis d'opposition chauffés à blanc ont été reçus ce matin par Emmanuel Macron, qualifié de va-t-en-guerre.
Le président de la République est prêt à un soutien sans limite et semble-t-il jusqu'au boutiste à l'Ukraine.
Je vois qu'on a un président qui, malheureusement, comme toujours, joue y compris avec la vie de soldats.
La semaine dernière, le chef de l'État a brisé un tabou en évoquant l'envoi de soldats occidentaux en Ukraine.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
L'OTAN et plusieurs pays européens ont pris leur distance avec la position de la France. Mais mardi, en République tchèque, Emmanuel Macron a enfoncé le clou en appelant les Occidentaux à ne pas être lâches face à la Russie, mais au contraire à accentuer le rapport de force.
Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire ? Le président Poutine. C'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement.
Le président tchèque a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Mais à Berlin, le chancelier allemand ne décolère pas.
Soyons clairs. En tant que chancelier allemand, je n'enverrai aucun soldat de notre armée en Ukraine. Et nos soldats peuvent compter là-dessus.
Alors, des troupes au sol de l'OTAN pourraient-elles être envoyées en Ukraine ? Faut-il un sursaut stratégique comme le prône Emmanuel Macron ? Les Européens sont-ils trop frileux face à Vladimir Poutine ?
Alors, nous allons essayer de répondre à ces questions tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, Max Erwan Gastineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste. Vous avez publié « L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation » aux éditions du CERF. Selon vous, il y a le risque d'une escalade avec un pays, en l'occurrence la Russie, qui a recouvré sa puissance. Dites-vous, les Européens sont en décalage, ils n'ont pas compris qu'on a changé d'époque. À vos côtés, Bernard Guetta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew au Parlement européen, membre de la délégation à la Commission de coopération parlementaire Union européenne-Russie. Et selon vous, Bernard Guetta, la question n'est pas de savoir si les Européens sont prêts à mourir pour Kiev. Ça, c'est la rhétorique utilisée par Marine Le Pen, dites-vous. Le vrai problème, c'est de savoir si nous sommes prêts à livrer davantage d'armes à l'Ukraine. Et puis à vos côtés, Britta Sandberg. Bonsoir Britta Sandberg, bienvenue à vous. Correspondante de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel à Paris. Selon vous, à propos de l'envoi éventuel de troupes en Ukraine, c'est peut-être une meilleure stratégie, dites-vous, d'en parler que de ne pas en parler. Il faut qu'il y ait un réveil des Européens. On ne peut réveiller personne, dites-vous, si on reste trop discret, en tout cas vis-à-vis des opinions et des États. Tout de suite, pour ouvrir ce débat, Benjamin, vous avez une déclaration qui est la déclaration du jour.
Oui, elle est signée François Hollande. Hein. Moins on en dit, mieux on agit, c'était hier soir. Au sortir de son entretien avec Emmanuel Macron, une façon à peine voilée donc de critiquer les propos de l'actuel chef de l'État sur l'envoi, toujours possible donc, de troupes sur le sol ukrainien. Et l'ancien président socialiste d'enfoncer le clou. Il ne faut rien faire connaître, dit-il à Poutine, de nos intentions. Max Erwan Gastineau, est-ce que vraiment Emmanuel Macron a-t-il eu tort de dire ce qu'il a dit ?
Moi, je suis assez d'accord avec la déclaration de François Hollande. Je pense que d'une manière générale, nous avons besoin peut-être d'une politique étrangère un peu moins vocale et un peu plus discrète. Parce que concrètement, l'hypothèse avancée par Emmanuel Macron d'un envoi de troupes au sol impliquerait que l'ensemble des pays européens nous suivent et donc que l'on se concerte avant d'émettre une telle hypothèse. Or, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas été suivi. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que la France affirme sa personnalité géostratégique pour ensuite dessiner un sillage dans lequel nos alliés européens vont nous suivre. En 2003, nous étions seuls au début à dire non à la guerre en Irak et puis les Allemands nous ont suivis. Mais il y avait une forme de crédibilité parce que la France pouvait directement agir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Or là, pour agir sur le théâtre russo-ukrainien, envoyer des troupes au sol ne s'imagine que dans le cadre d'une coalition, et donc une coalition qui embarquerait les autres armées européennes, dont l'armée allemande, ou ce qu'elle constitue
Bernard
aujourd'hui.
Guetta, est-ce qu'une diplomatie efficace, c'est de ne pas trop en dire, justement ?
Mais écoutez, une diplomatie efficace, c'est certainement pas de dire matin, midi et soir, comme le font notamment les Américains, nous n'enverrons pas de troupes, quoi qu'il se passe. Parce qu'à ce moment-là, le message pour Vladimir Poutine, c'est « tu peux y aller ». Tu peux y aller. On envoie des armes, on n'envoie pas de troupes. Ça veut dire qu'on ne va pas trop s'en mêler. On soutient les Ukrainiens, mais sans aller trop loin. Or, moi, ce qui me frappe, c'est que le président de la République dit une chose mais archi-banal et nécessaire dans tous les états-majors, dans une situation de guerre ou d'approche de guerre. On ne dit jamais...
C'est pas banal.
Mais si, bien sûr que c'est banal. Parce qu'on ne dit jamais à l'adversaire, on ne fera pas ça. Jamais. Jamais. Il ne l'exclut pas. Il dit, je n'exclus pas.
Britta Sundberg, parmi ceux qui excluent justement d'envoyer des troupes au sol, Bernard Guetta citait à l'instant les États-Unis, mais il y a aussi le chancelier allemand Olaf Scholz qui très clairement a désavoué les propos du président français. Pourquoi l'a-t-il fait et comment est-ce que d'ailleurs sa prise de position a été prise en Allemagne? Est-ce qu'elle est soutenue?
Moi, je crois que tout d'abord, il y a vraiment une grande confusion entre envoyer des troupes au sol, puisque tout le monde, aussi en France, a compris que c'était des troupes de combat, qu'on allait entrer dans une phase active de la guerre. Et puis, à partir de mardi matin, il y a eu plus de précision là-dessus que ce n'était pas vraiment ça. Enfin, Scholz, donc, c'est dans la tradition allemande, de la doctrine de la défense allemande, qu'on ne veut pas entrer en guerre. Lui, c'est que je trouve très critique. L'extrait qu'on a vu, c'est d'une vidéo qu'il a enregistrée mercredi soir, qui a été diffusée, je crois, mercredi ou jeudi. Donc, enfin, jusqu'à jeudi, il a fait comme s'il y avait eu la demande d'envoyer des troupes de l'OTAN ou de l'Allemagne en guerre. Il savait déjà que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, il y a des gens, des militaires aussi sur place.
Mais il y a un vrai désaccord franco-allemand, quand même, qui est spectaculaire, en l'occurrence.
Assez dramatique, je trouve. De toute façon, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une surprise que les deux stratégies de défense sont vraiment très contraires. Scholz, il a fait, je crois que, puisque tout d'abord, il est vraiment convaincu que l'Allemagne ne doit pas aller dans ce sens. Deuxièmement, il a fait, puisqu'il sait qu'une grande partie de l'opinion publique allemande est sur son côté.
Les citoyens allemands soutiennent sa prise de position.
Selon les derniers sondages, 58% des Allemands sont contre l'envoi des Taurus.
Les Taurus, ce sont les missiles de longue portée.
Max Erwan Gastineau, en même temps, Emmanuel Macron dit qu'il conviendra de ne pas être lâche. Est-ce qu'en effet, il ne pointe pas du doigt un manque de courage des Européens face à Poutine?
Je pense pas que ce soit...
D'ailleurs, Vladimir Poutin, le Kremlin qui dit aujourd'hui, Macron accroît l'implication de la France dans le conflit en Ukraine, donc ils prennent acte de cette prise de position du président français.
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie si l'on veut embarquer, encore une fois, nos alliés européens. Quand je disais qu'on a besoin d'une diplomatie sans doute un peu moins vocale, c'est parce qu'on a besoin d'avancer sur des dossiers très concrets. Et si l'on veut, en effet, doter l'Europe d'une capacité d'action, y compris, bien sûr, pour s'opposer à la Russie. Sur la question, par exemple, des budgets de défense, on a besoin que chaque État s'engage à augmenter, à accroître l'effort budgétaire en matière de défense. Il y avait une proposition que la Pologne avait mise sur la table, la Pologne du temps des conservateurs, certes, mais qui a été quand même très offensive en soutien à l'Ukraine, proposait que les critères, le budget de défense sorte des critères de Maastricht. C'est une proposition très concrète que la France pourrait endosser. On a aussi besoin peut-être de rendre accessible la finance durable aux industries de défense. Il y a tout un ensemble de dossiers concrets où nous aurons besoin de nos alliés européens. Et je crains que ce type de position ne crispe un certain nombre d'alliés et que cela nous empêche d'avancer concrètement. Là, je ne vois pas en quoi cette prise de position peut sur ce dossier.
Justement, est-ce que ça crispe, effectivement, pour prendre votre terme, Bernard Guetta, d'utiliser le terme lâcheté, justement? Est-ce qu'ils sont lâches aujourd'hui, les Européens? Ça renvoie aussi, évidemment, à ce mot célèbre de Léon Blum, après les accords de Munich, qui parlait de lâche soulagement. Ils sont munis quoi? Ils sont lâches, les Européens, aujourd'hui?
Pas du tout. Remarquez que le président Macron a employé le futur. Il n'a pas dit aujourd'hui nous sommes lâches. Ah non.
Oui, mais le mot n'est pas neutre. Faudrait pas être lâche. C'est un avertissement.
Je ne vous ai pas dit que le mot était neutre. Le mot est extrêmement important. Mais il ne dit pas aujourd'hui nous sommes lâches. Il dit si la situation continuait à s'aggraver, il ne faudrait pas être lâche, c'est-à-dire il faudrait relever le gant. Et d'une manière générale, pour répondre à votre précédente question, je crois qu'on sous-estime encore beaucoup dans les différentes capitales de l'Union. Excusez-moi, dans les différents États de l'Union, la mobilisation est vraiment énorme aujourd'hui, à la fois des capitales et des institutions européennes, je veux dire le Parlement, la Commission, naturellement le Conseil. Il y a, depuis la dernière déclaration spectaculaire de Trump sur « j'encouragerai les Russes », etc., nous l'avons tous
entendu. – Attaquer un pays de l'OTAN.
– Attaquer un pays de l'OTAN qui n'aurait pas payé les 2% de son PIB en cotisation à l'Alliance Atlantique. Donc, depuis cette déclaration de Trump, qui a été un électrochoc, mais absolument inouï. Deuxièmement, Navalny, évidemment l'assassinat de Navalny. Donc l'opposant, et troisièmement, l'opposant russe. Les légères, elles sont légères pour l'instant, mais réelles, progression des Russes sur le front. Si vous additionnez ces trois faits, il y a eu une mobilisation extraordinaire en l'espace de... Mais même pas un mois. Même pas un mois. Et qui est d'autant plus forte qu'il y a une montée très, très forte depuis 5-6 ans dans l'Union, sur le chemin de l'affirmation véritablement de l'Union européenne en union politique. Le tabou sur la défense, il est tombé déjà il y a 5-6 ans.
Alors, il y a cette hypothèse d'envoyer un jour des troupes au sol. Et puis, Britta Sandberg y faisait allusion tout à l'heure. Il y a aussi une question qui se pose. N'y aurait-il pas déjà un certain nombre de troupes occidentales en Ukraine?
Oui, c'est voilà. Ce qu'a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz fin février. Des Français et des Britanniques seraient déjà présents en Ukraine. Alors, pour le journal britannique The Guardian, c'est un secret de polichinelle dans les cercles militaires. Oui, il y a bien des soldats américains, britanniques et français déployés en Ukraine, mais uniquement dans le cadre de missions de renseignement et de formation, et notamment pour tout ce qui concerne les missiles franco-britanniques Storm Shadow Scalp qui ont été livrés à Kiev. Le Washington Post fait le même constat et rappelle que des documents top secrets, mais non vérifiés, avaient été divulgués l'année dernière à ce sujet. Ces chiffres montraient la présence de petites forces spéciales et de conseillers militaires en Ukraine, 15 Français, 14 Américains, une cinquantaine de Britanniques qui fourniraient des renseignements sur les cibles russes. Et mardi 27 février, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est exprimé devant la presse après les déclarations de M. Scholz et a reconnu la présence dans le pays d'un petit nombre de personnels pour soutenir l'armée ukrainienne. Mais il précise que c'était uniquement dans le cadre de formation médicale. Britta Sandberg, est-ce que ça, finalement ça se passe un peu comme ça dans toutes les guerres? On envoie des troupes, mais on ne le dit pas ouvertement.
Oui, enfin ça dépend toujours qu'est-ce que vous sous-entendez. Troupes. Enfin, je crois que la première réaction, c'est toujours troupes de combat. Enfin, c'est ce qui a été compris lundi soir, il y a une dizaine de jours. Évidemment, il y a des gens qui forment des soldats sur place, qui font la maintenance des équipements militaires. Et comme maintenant les Anglais ont vaguement, mais quand même avoué, il y a au moins des Anglais, il y a d'autres sur place. Donc, en fait, les Anglais et les Français étaient quand même surpris que Scholz en parle. Là, c'était la programmation des missiles. Dans ce contexte, il en a parlé. C'était pas très discret et très habile de sa part. Il y a des personnes sur place et on peut se demander, est-ce que Scholz, à la fin, est-ce qu'il n'a pas affaibli sa propre logique en disant que si on est sur place, ça va provoquer des réactions de la part des Russes une fois qu'on est sur place. Maintenant où on sait qu'on a des personnes sur place déjà et qu'il n'y a pas eu une escalade de la part des Russes, est-ce que ce n'est pas... le contre-argument de dire c'est peut-être pas toujours un automatisme que ça provoque des réactions très violentes.
Bernard Guetta, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train d'anticiper un retrait américain, en fait, dans la perspective de l'élection présidentielle et peut-être de l'élection de Trump? Est-ce que c'est ça?
Non seulement Emmanuel Macron, mais je crois tous les dirigeants européens. Tous les dirigeants européens ont... Comment dire? Imprimé. Vous savez, ça se dit comme ça, je crois, dans les lycées. Ils ont imprimé. Ça y est, les Américains s'en vont. Ils s'en vont rapidement, grossièrement, brutalement, si c'est Trump, à petits pas, poliment, courtoisement, et avec un peu de discussion et de concertation, si c'est non seulement Biden, mais tout autre président américain. Mais ils s'en vont. Et on regarde, quand on est européen, quand on est chef d'État, ou quand on est d'ailleurs parlementaire européen, ben on regarde quoi? On regarde au sud, et on voit une situation de chaos au pluriel. On regarde à l'est, et on voit ce que nous savons. On regarde à l'ouest, et on voit les Américains qui sont
Gastineau.
Là. Ben brusquement, on se mobilise.
Gouverner, c'est prévoir ou anticiper. C'est ce que fait le président de la République. C'est ce que nous dit Bernard Guetta.
Je pense qu'il anticipe, en effet, un retrait américain. Et puis, je pense que c'est la vocation aussi de la France de prendre toute sa part dans un conflit qui concerne l'Europe. Si la question de mourir pour Kiev a été posée, c'est pas simplement parce que Marine Le Pen l'a posée, c'est parce qu'on a envisagé l'hypothèse d'une guerre longue, à haute intensité, qui implique des troupes au sol, mais aussi peut-être une armée de conscrits ou des conscrits qui compléterait les armées irrégulières. Ce qui pose la question du sentiment européens. Raymond Aron avait une manière de poser la question très intéressante en 1978 dans un entretien à l'Express. Il disait « La défense de l'Europe est-elle empêchée du fait du veto américain, du fait que dans les faits l'Europe est un protectorat militaire américain, ou du fait des Européens eux-mêmes qui ont perdu leur patriotisme national sans le remplacer ?» Et moi je crois que plutôt que de miser sur un hypothétique sentiment d'appartenance européen qui viendrait remplacer le patriotisme des États-nations, il faut réveiller les consciences nationales, mais les compléter par une conscience européenne qui transcenderait ces appartenances nationales.
Très concrètement,
il faut ressusciter.
Très concrètement, en Europe, aujourd'hui, il y a des pays, les Pays-Bas, par exemple, ou la Finlande, qui disent « attention, on est les prochains sur la liste ».
Alors ça, c'est une question
sur la liste de Poutine. Donc est-ce que ça participe pas justement de la nécessité de l'Europe de préparer sa défense sans le parapluie américain?
C'est quand même un argument assez paradoxal, parce que d'un côté, on dit « l'OTAN est notre meilleure garantie de défense », donc il faut se féliciter que la Suède et la Finlande intègrent l'OTAN, et d'un autre côté...
La Suède a intégré officiellement l'OTAN aujourd'hui.
Et d'un autre côté, on dit, Poutine a l'intention d'aller plus loin, qu'importe au fond que les pays soient membres ou non de l'OTAN. Donc il faut savoir, est-ce que l'OTAN nous protège? Si l'OTAN ne nous protège pas, alors c'est la question de l'Alliance Atlantique qu'il faut également poser.
C'est pas contradictoire, ça. C'est pas contradictoire.
C'est tout à fait contradictoire.
Mais non, parce que personne ne veut quitter l'OTAN.
Oui, mais...
L'OTAN reste, et la stratégie, et c'est pour ça que cette crise correspond d'un côté parfaitement à tout ce que Emmanuel Macron a voulu faire depuis 2017, une Europe plus indépendante, une politique des défenses plus autonome, une plus grande indépendance par rapport aux États-Unis. Et moi, je crois que tout ce qu'il a fait maintenant, enfin, je suis très souvent très critique par rapport à ce qu'il fait, mais là, je crois que c'est sa méthode politique quand même de provoquer pour réveiller l'opinion publique et ses partenaires européens. Il a fait ça quand il a dit à l'automne 2019 « NATO is brain dead », le mort cérébral de l'OTAN.
La mort cérébrale de l'OTAN,
voilà. Oui. Donc je crois que maintenant, je me demande si ce n'était pas très volontaire que lundi soir, il a laissé les troupes au sol dans le vague pour réveiller tout le monde pour souligner l'urgence de la situation.
Mais je pense qu'on peut avancer sur l'Europe de la défense dans le cadre de l'OTAN. C'était pas ma question, mais on pose la question du fait de savoir si Poutine pourrait aller plus loin. Aller plus loin côté russe, ça veut dire affronter concrètement l'OTAN. Poutine est-il assez fou pour affronter une coalition euro-américaine? C'est ce que redoutent les Pays-Baltes, mais je crois qu'il faut quand même se poser la question sérieusement, et ça ne me semble pas tout à fait sérieux d'envisager cette
attention,
hypothèse.
Attention, on a changé, comme dit le chancelier allemand, on a changé d'époque. Poutine peut regarder l'Alliance Atlantique et surtout la future Maison-Blanche, si c'était Trump, en se disant, mais en vérité, virtuellement, la question du parapluie nucléaire américain et de la protection otanienne ne se pose plus, puisque M. Trump vient de déclarer que non seulement il ne défendrait pas les pays européens, mais qu'il inciterait la Russie à venir nouvellement de l'OTAN. C'est Trump qui l'annonce.
Bernard Guetta, ça se passe à quelques mois des élections européennes, ça ne vous a pas échappé, ça a donné lieu à une passe d'armes à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal s'en est pris au Rassemblement national, qu'il a qualifié quasiment de cheval de Troie, selon lui, de la Russie en France. On écoute le Premier ministre.
Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. C'était dans votre programme. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
Britta Sandberg, il y a quand même une ambition politique pour Emmanuel Macron quand il fait ses déclarations ou pas? C'est-à-dire quelque part de forcer, de pousser les oppositions à prendre position sur le sujet.
Bon, en politique, je crois que rien n'est indépendant. Enfin, je crois que je suppose que sa prise de position, cette initiative d'organiser la conférence de soutien à l'Ukraine dans très peu de temps, avec beaucoup de chefs d'État, n'était pas pour gêner le Rassemblement national. Mais puisque je crois qu'il est convaincu, et aujourd'hui, apparemment,
il n'était pas il
y a deux ans.
C'est déboussolant quand même pour l'opinion.
C'était il y a 18 mois. Et c'est pas déboussolant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à l'époque, quand il parlait de la nécessité de ne pas humilier la Russie, c'était de la nécessité de ne pas le faire après une défaite de Vladimir Poutine. C'est-à-dire de ne pas réitérer l'erreur historique colossale des accords de Versailles après la guerre de 14-18. Ça avait été une phrase très très mal comprise. Alors, véritablement.
Très concrètement, dans l'agenda parlementaire, la semaine prochaine, mardi et mercredi, il y a un débat en France à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sera suivi d'un vote, indicatif d'ailleurs, sur l'accord bilatéral de sécurité signé par Emmanuel Macron et le président ukrainien Zelensky. Est-ce que ça, l'organisation de ce débat ne vise pas, en quelque sorte, dans l'esprit du chef de l'État, à ce que les masques tombent? Est-ce que le Rassemblement national, Marine Le Pen, peut voter contre cet accord bilatéral de sécurité? Rappelons qu'il comporte notamment 3 milliards d'aides supplémentaires pour l'Ukraine.
Bon, la vérité, c'est que quand même, tout le monde a évolué sur la question russe. Il y a une tradition géopolitique française, plutôt russophile, pour le dire simplement, qu'a incarné Emmanuel Macron au début, notamment de son premier quinquennat. Donc l'ensemble des forces politiques ont évolué sur la question russe. Je ne sais pas ce que votera le Rassemblement national.
Le RN ne vote pas pour l'instant au Parlement européen les mesures de soutien à l'Ukraine, les livraisons d'armes, etc.
Ce qui est sûr, c'est que on voit bien quand même qu'il y a l'intention de créer un rapport de force politique dans la perspective des élections européennes avec un camp du bien qui incarne une défense vigoureuse vis-à-vis de l'Ukraine et un camp du mal accusé de russophilie qui incarnerait la vague populiste qu'on nous promet pour les prochaines élections européennes. Donc je crois qu'il y a aussi des considérations d'ordre électoral et d'ordre intérieur et politique du côté d'Emmanuel Macron. Et en même temps, il y a une évolution qui concerne l'ensemble du spectre politique français, Emmanuel Macron inclus.
Mais vous savez, je crois qu'il y a deux personnes qui ont commandé cet agenda politique. Il s'appelle Trump et Poutine. Ce n'est pas Macron, en l'occurrence. Macron réagit à une évolution de la situation internationale qui, élection européenne ou pas, imposait les déclarations qu'il a faites, les mesures qu'il a prises. Enfin, il n'y aurait pas.
La situation a été déjà telle qu'elle est aujourd'hui, favorable à la Russie.
Non, pas du tout. Je viens de vous énumérer, il y a 5 minutes, trois éléments déclencheurs de l'évolution de la situation. Et même s'il n'y avait pas d'élection européenne en juin, je suis totalement persuadé que Emmanuel Macron aurait pris les mêmes positions. Non, mais c'est évident.
Britta Sandberg, un mot de conclusion. Est-ce que la guerre en Ukraine et l'attitude des Européens, c'est aussi un sujet dans la campagne des élections européennes en Allemagne? Est-ce que ça va être aussi au cœur des enjeux de cette campagne?
Au cœur, je ne sais pas. Mais bien sûr, une crise occupe tout le monde et est plus important que toute autre chose et force aussi les différents partis politiques de prendre des positionnements clairs. Et c'est ce que Macron demande aux autres. Et en Allemagne, ce n'est pas différent. Et d'ailleurs, Scholz, je crois qu'il met aussi... Il y a trois élections dans les Länder à partir du mois de septembre. Donc s'il a pris cette attitude pacifiste, on pourrait aussi dire que c'est dans un but électoral. Mais ce n'est pas ça qui est à l'origine. C'est ça que je voulais corriger tout à l'heure.
Merci. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.